Eh bien, bonjour. Avant d'aller dans la parole, on va se courber encore une fois devant celui qui règne encore, le Dieu de l'impossible. C'est tout un privilège d'être assis parmi les enfants de Dieu, mais on sait que lui est là avec nous. Là. Même plus que ça, il est là en nous, en ceux qui ont remis leur confiance en lui. On va se courber. Eh bien, Père du ciel, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci pour ce privilège que nous avons de se tenir devant toi, dans ta présence. Pour ce privilège aussi de scruter ta parole. Mais c'est ta parole, c'est pas ma parole. Et moi, je te prie pour que tu puisses te tenir devant moi, que tu puisses que les auditeurs ne m'entendent pas, mais qu'ils t'entendent toi. Que vraiment, par ton Saint-Esprit, tu agisses en chacun de nous, qu'on puisse sortir d'ici, grandi en toi, plus connaissant de toi. Amen. On a chanté la première chanson, je pense qu'il me rappelle ça. Parce qu'on peut voir aussi dans la parole, et en particulier dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, puis dans le psaume 19. Que le Seigneur, après la chute, a fait connaître son existence aux hommes, premièrement par sa création. Il s'était fait connaître dans le Jardin d'Éden. Mais là, il y a eu toutes sortes de bouleversements. Puis après la chute, puis après qu'il y a eu la terre a été peuplée, il s'est fait connaître par sa création. Puis là, par cette création-là, on peut voir qu'il existe une puissance, une force, une intelligence surnaturelle qui a tout créé et qui maintient tout l'univers en place. Cette puissance-là, nous, on l'appelle Dieu. Mais si Dieu s'était révélé uniquement à travers sa création, on ne pourrait pas arriver à le connaître pleinement. Qu'est-ce qu'il est? On ne pourrait pas connaître non plus si cette force qui a tout créé a des valeurs, s'il y a des normes. On ne pourrait pas non plus connaître son caractère, son éthique, sa volonté. On ne pourrait même pas connaître son nom. Ce serait une puissance surnaturelle qui a tout créé. Mais pour ça, il a fallu que Dieu se révèle dans sa parole, afin qu'on puisse le découvrir dans tout ce qu'il est. C'est certain qu'on ne pourra pas le découvrir dans tout ce qu'il est pendant cette vie. On a pour l'éternité à le connaître. Mais au moins, on peut goûter un peu à qu'est-ce qu'il est. C'est aussi par cette parole qui nous a fait connaître ses ordonnances, ou sa loi, on pourrait dire, afin de nous montrer que notre état de pécheur était incompatible avec lui. Qu'elle était même justement la cause de notre séparation entre lui et nous. Mais sa parole aussi nous indique que Dieu lui-même a pourvu afin que nous puissions être réconciliés avec lui puis retrouver cette relation qu'on avait perdue avec notre Créateur. Mais avant de nous montrer ce moyen-là dans sa parole, il avait donné à l'humanité une série d'ordonnances à accomplir afin qu'on puisse entrer en relation avec lui. Ces ordonnances-là, ils nous montraient combien Dieu était un Dieu à part, un Dieu saint, complètement séparé de nous, de nos valeurs. Mais en même temps, ces ordonnances-là, on peut voir qu'il était impossible à l'homme de les accomplir parfaitement. Parce que cette loi n'était qu'il avait ordonnée avait seulement pour but de nous montrer notre incapacité. de nous conduire vers celui qui avait parfaitement tout accompli à notre place. Et c'est la raison aussi pour laquelle l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 10 que la loi était seulement l'ombre des choses à venir. Et dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, des versets 1 à 18 de l'Épître, ça marque la fin, on pourrait dire, d'une partie très importante pour l'Église. On va prendre un petit temps pour lire ce passage-là. Hébreux 10, 1 à 18. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, l'auteur nous écrit « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener ses assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il y a question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens, pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec vous, avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est pas fantastique, ça? Et après avoir écrit cette partie-là de 1 à 18, l'auteur de l'Épître va conclure sa démonstration avec un sujet, on pourrait dire, qui était d'une grande importance, qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. Il va mettre tous ses efforts pour essayer de faire comprendre aux Juifs, ceux qui recevaient la lettre, les Juifs convertis, qu'ils ont tout à gagner en abandonnant la religion de leur père, on pourrait dire cette ancienne alliance, et que cette nouvelle alliance qui leur était offerte en Jésus-Christ était d'autant supérieure à celle qu'ils ne voulaient pas, qu'ils avaient crainte d'abandonner. En fait, ce que Dieu avait prévu à travers cette alliance de l'Ancien Testament, c'est qu'elle servirait à préparer la voie et la venue de Christ dans la nouvelle alliance. Il y avait d'un côté la loi, c'est-à-dire tout le système religieux, tout le système sacrificiel que Moïse avait reçu au mont Sinaï et que le peuple s'était engagé à respecter. Et de l'autre côté, le bien à venir, c'est-à-dire les promesses que tout ça préfigurait. Tout ce que Dieu veut nous faire goûter au travers de cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui est instaurée par Christ et qui libère l'homme de son esclavage de la loi et qui lui permet de retrouver la communion avec Christ. Et là, par toute une série de comparaisons, on a pu voir des messages qu'on avait, qui avaient comparé Jésus au sacrificateur de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, qui avaient comparé le Temple de Jérusalem aussi, au sanctuaire céleste. Puis donc, Jésus existe son sacerdoce. Il avait comparé aussi l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Et là, on arrive maintenant à la dernière comparaison. C'est celle qui nous montre Jésus qui est maintenant supérieur à tous, les sacrificateurs, mais dans un autre sens. Cette fois-ci, dans le sens qu'il a offert un sacrifice encore beaucoup plus excellent que le leur. Et pour nous faire comprendre ça, la première information que l'auteur nous donne dans ce passage concerne justement la loi. Au verset 1, il écrit « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Là, on peut voir que l'auteur, il compare la loi à une ombre. Mais vous savez ce que c'est une ombre? Hein? L'été, là, quand on s'en va dehors, il fait chaud, il y a un beau soleil, puis là, on voit notre ombre en avant ou de le côté, ou on peut voir un ombre d'un objet, là, n'importe quoi. Là, hein? C'est quelque chose, on pourrait dire, qui nous représente, qui vous représente ou qui va représenter un objet quelconque. C'est une forme, on pourrait dire, semblable, mais pas exacte. Puis là, si vous essayez de les toucher, si vous essayez de la prendre, on dirait qu'elle vous glisse entre les mains. Elle s'évapore, on pourrait dire. C'est une représentation d'une chose réelle, mais elle, l'ombre, n'est pas pour autant réelle. Elle fait juste représenter, imparfaitement aussi, une personne ou un objet quelconque. Et ici, nous pouvons voir que ce que l'auteur veut dire en disant que la loi, c'est une ombre des biens à venir, en ce sens que ce n'est pas l'exacte représentation des biens à venir, des promesses que Dieu nous a données. Mais qu'il y a autre chose qui nous attend de bien plus grand puis de bien meilleur. La loi en donnait une brève idée, mais pas suffisant pour qu'on puisse parfaitement bien la saisir. Et là, il faut dire que la loi dont il est question ici ne se limite pas seulement qu'aux 10 commandements. Mais ça comprend toutes les obligations qui se trouvent inscrites dans l'alliance qui a été conclue entre Dieu et le peuple Israël au mont Sinaï. Et si vous voulez en avoir une idée, vous pouvez lire le livre d'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Vous allez voir tout ce que le peuple Israël était soumis pour observer cette loi-là. Mais le fait de vivre sous la loi donnait quand même une qualité de vie beaucoup meilleure à ceux qui n'avaient pas de loi. Si vous avez déjà regardé un film du Far West, ça, c'est pas de loi. C'est assez épeurant de vivre dans ce contexte-là. Donc, Israël avait la loi de Dieu, c'était beaucoup mieux que quand il n'y avait pas de loi de Dieu. La loi évitait quand même beaucoup de désagréments. Paul même, il compare les non-juifs en leur disant qu'ils étaient sans loi, sans espérance devant Dieu. Donc, les Juifs avaient un avantage. Mais ce que nous dit l'auteur, c'est que la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui sont offerts perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il y avait des sacrifices matin et soir. Mais chaque année, il y en avait encore, exprès là, pour d'autres choses. Puis ça, cette loi-là était incapable de réconcilier définitivement le pécheur avec Dieu. C'était une chose qui était toujours à faire, puis à refaire, puis à refaire, puis à refaire. Vous pouvez dire, bien là, je suis correct. Ça me faisait penser quand j'étais jeune, puis on me disait d'aller confesser mes péchés. Mais aussitôt que je ressortais de là, je n'avais d'autre à confesser. C'est jamais fini. N'était jamais capable de réconcilier définitivement Dieu avec nous. Cette chose, c'est ça. Tandis que, on pourrait dire, cette ombre-là, elle essayait de définir la réalité, qui, elle, a le pouvoir de rendre salut de l'homme parfait. Mais si autrement, elle aurait pu le faire si les sacrifices auraient été définitifs. N'aurait-on pas cessé de les offrir une fois pour toutes? Pourquoi continuer, puisque ceux qui rendaient ce culte étaient, une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché? Mais le problème, c'est comme le texte le dit, c'est qu'ils en étaient toujours conscients. Ils se sentaient toujours coupables. Jamais libérés de le péché, ils n'avaient jamais été effacés. Ils étaient simplement couverts de péché. C'est la grande différence entre les sacrifices d'animaux qui étaient offerts sous l'Alliance, l'Ancienne Alliance, puis le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu qui a été offert une fois pour toutes. Mais dans une autre de ces informations, l'auteur nous dit que les sacrifices, il revient là-dessus, plutôt que d'effacer définitivement le péché, nous le ramène tout le temps à notre souvenir. Et là, au verset 3, il dit que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Parce que le simple fait d'offrir des sacrifices pour le péché leur rappelait leur état de pécheur, leur rappelait qu'ils étaient toujours pécheurs. Mais la raison, c'est qu'il était impossible, comme le texte nous dit, que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Pourquoi? Parce que le salaire du péché de l'homme, c'est la mort. Donc, pour enlever le salaire du péché, pour enlever la sentence, pour que Dieu se trouve à être un Dieu juste, il fallait absolument qu'il applique la sentence. Donc, il faut qu'un homme meure. Il faut que je meure pour mes péchés. À moins que quelqu'un d'autre meure à ma place. Le problème, c'est que Tous sont péchés. Tous ont péché, ils sont privés de leur gloire de Dieu. Personne, il n'y a personne qui peut mourir à ma place. L'animal, lui, était un substitut temporaire en attendant le vrai sacrifice. Et la religion de l'Ancien Testament présentait un défaut majeur, parce que ces sacrifices ne pouvaient jamais amener à la perfection. C'était tout le temps, comme j'ai dit, à renouveler. Ils ne pouvaient jamais amener à la perfection ceux qui tentaient de s'approcher de Dieu. Elle était incapable de rendre les gens dignes de vivre dans la présence de Dieu. Les sacrifices d'animaux en étaient capables. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais été conçus pour ça. Et comme j'ai dit tantôt, il n'était qu'un substitut temporaire qui préfigurait ce qui devait venir. Ils étaient l'ombre de ce qui devait venir, c'est-à-dire le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ces sacrifices devaient être répétés indéfiniment. Et c'est la raison pour laquelle Christ, entrant dans le monde, dit dans une prière qui était adressée à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Et Dieu a institué ce système-là. Mais dans le fond, il n'agréait pas les sacrifices parce que pour lui, c'était plus important que le peuple y obéisse plutôt que de lui offrir des sacrifices, qui de toute façon ne faisait que couvrir momentanément. Il le dit d'ailleurs dans 1 Samuel, lorsque Saül a désobéi à Dieu en lui offrant un sacrifice. Saül a joué le rôle d'un grand prêtre et il a offert un sacrifice. Et là, il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Et c'est pour ça qu'il a dit au verset 17, ça c'est Jésus qui parle, « Voici, je viens. » Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire au Dieu ta volonté. » Et après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Autrement dit, ce qu'on peut offrir selon la loi. Et là, il dit ensuite, « Mais voici, je viens pour le faire, ta volonté. » Et par ce geste, il supprime aussi la première chose pour établir la seconde. Puis la première chose, c'était bien entendu les ordonnances de la loi que les sacrificateurs accomplissaient régulièrement. Là, ils l'abolissaient, cette première chose-là. Les sacrificateurs offraient des sacrifices des animaux qui n'étaient jamais suffisants. Mais pour que Jésus, lui, le serviteur parfait, puisse venir offrir un sacrifice parfait, il fallait absolument que Dieu lui forme un corps, tout comme nous, pour payer à notre place. Parce que bien qu'il existait de toute éternité en forme de Dieu, comme le disent les Écritures, le Fils ne possédait pas de corps physique permanent avant de venir sur terre. Puisque comme Jésus le dit à la Samaritaine, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est en vertu de cette volonté du Fils de venir faire la volonté de son Père que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et la volonté de Dieu était que nous soyons sanctifiés, mis à part, saints, mais on était pécheurs. Il fallait donc que quelqu'un paye à notre place le salaire de notre péché, afin qu'on puisse être rétabli, réconcilié et rétabli dans cette relation avec Dieu et qu'on puisse partager l'éternité en communion avec lui. Mais croyez-vous que nous sommes bénis, nous, aujourd'hui? dans cette nouvelle alliance, nous avons été réconciliés avec Dieu. Puis la condamnation qui pesait sur nous n'est plus. Puis tout ça grâce à la détermination du Fils qui voulait faire la volonté de son Père. Parce que la volonté de son Père, c'était de nous sanctifier, de nous mettre à part pour lui, qu'on puisse entrer en communion avec lui pour l'éternité. Mais l'auteur de la lettre nous rassure aussi à la suite de ces versets en nous disant qu'avec Christ, un seul sacrifice est suffisant. Au verset 11, il continue en disant, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, parce qu'il faisait simplement, puis là, si vous avez remarqué, l'auteur de l'Épître, il se répète, parce qu'il veut absolument qu'on comprenne. Parce que le sacrifice ne faisait simplement que couvrir les péchés. Puis si vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste, on parlait au sacrificateur, et il a parlé à ses disciples, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ne fait pas juste le couvrir, lui, il l'enlève, il l'ôte, le péché du monde. Et ce que l'auteur nous dit au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Christ, maintenant, est maintenant devenu notre médiateur, notre avocat. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Un avocat même, qui au lieu qu'on puisse le payer, c'est lui qui a payé pour nous. Il a payé de sa vie pour être capable de nous défendre. Parce que lorsque l'ennemi s'en vient devant Dieu et dit, « T'as-tu remarqué, comme à Job, t'as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? » Ben Jésus, il se lève et dit, « J'ai payé. J'ai payé pour ça. » Il est clair de sa dette. J'ai payé, je suis mort pour lui. Comme je viens de dire, un avocat qui a même payé de sa vie à notre place et qui attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Un marchepied, vous savez ce que c'est encore là? C'était, excusez-moi, comme un repose-pied. Un petit banc, où est-ce que la plupart, c'est des rois qui ont ça. Ils sont assis sur le trône, puis il y a le marchepied. Mais dans Ésaïe 66, il dit que la terre était le marchepied de Dieu. Mais ici, comme dans Matthieu 22, 44, ce sont les ennemis de Christ qui vont servir de marchepied à notre Seigneur Jésus. Puis la raison qu'il a pu s'asseoir puis reposer ses pieds sur son marchepied, c'est parce qu'une seule offrande y a amené la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Son sacrifice était parfait, complet. Plus rien à ajouter. Comme on a vu dans la série Tétélestai, tout est accompli. Dieu a jugé que cette offrande était suffisante pour nous mettre à part, et que ceux qui mettaient leur confiance en lui, Christ a rendu parfait par son sacrifice ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous êtes sanctifiés ce matin? Si vous êtes sanctifiés, ça veut dire que vous êtes parfaits. Pas vrai? Mais aux yeux de Dieu, oui. Parce qu'on est en Christ. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde en Christ. Parce que ceux qui ont rendu parfait, ceux qui ont sanctifié, ce ne sont pas des chrétiens d'exception. Là. On ne les met pas à part dans un coin, il ne faut pas leur parler, parce qu'eux autres sont sanctifiés, ou ils ont les doigts consacrés, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas eux autres qui font partie du clergé. Mais ceux qui ont amené à la perfection, c'est ceux qui sont rendus accomplis en lui. Qui a rendu mature en lui. Parce que les sanctifiés sont mis à part pour lui, consacrés à son service. Et on peut être certain de ça parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'atteste. C'est dans sa parole. Ce n'est pas nous qui s'est imaginé ça, là. Et tu sautes une page? Non, c'est ça. Car après avoir dit dans Jérémie 31, 33, 34, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. » Et on a déjà vu qu'une alliance, ça fait plusieurs fois qu'on en parle de l'alliance, hein? On a déjà vu qu'une alliance, c'est une entente, on pourrait dire c'est un contrat entre deux personnes, deux groupes de personnes. Puis lorsque le Seigneur a mentionné à Jérémie qu'il faisait déjà plusieurs alliances qu'il faisait avec son peuple, il avait fait une alliance, il avait fait des alliances conditionnelles entre deux parties, donc les deux parties s'engageaient à respecter l'alliance. Mais d'autres alliances étaient inconditionnelles, que c'était juste lui qui s'engageait à respecter cette alliance-là. Et donc ces alliances-là dépendaient uniquement de la fidélité de Dieu. Puis la majorité des alliances qui étaient scellées avec le sang des animaux dans l'Ancien Testament. Mais l'alliance dont l'Éternel parle ici à Jérémie, dans Jérémie, elle est future. Puis inconditionnelle. Puis elle va être scellée par le sang de Jésus-Christ à la croix. Puis tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. C'est justement de cette alliance-là qu'on parle, qu'on va se souvenir. Parce que dans Luc 22, 20, Jésus dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Je ne pense pas qu'il y ait deux nouvelles alliances. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, « Je vais faire une nouvelle alliance. » Jésus dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Et après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Qu'est-ce qui arrive à notre nouvelle naissance si ce n'est pas ces lois qui sont dans notre cœur? Je les écrirai dans leur esprit et il ajoute. Et là, cette loi-là que le Seigneur dit ici, là, qu'il va mettre dans nos cœurs, ce n'est pas la loi de Moïse, là, puis tout ce que ça comporte. Parce que, comme on l'a vu, personne n'a été en mesure de la respecter complètement. Fait que même s'il nous remettrait ça, ce serait encore un autre fardeau qu'on ne pourrait pas. Il n'y a personne qui a été capable, à l'exception de Jésus-Christ, qui l'a accompli complètement, à notre place. Et c'est plutôt ce que Paul appelle dans Romains la loi de Christ. Et la loi de Christ, elle consiste à quoi? Mais des fois, je dis qu'elle est aussi dure à respecter que l'autre. Parce que c'est de nous aimer les uns les autres. Puis je n'ai pas de misère à vous aimer à ce matin. Je suis certain que vous n'avez pas de misère à m'aimer non plus. Mais si on passait une semaine ensemble, c'est pas sûr. On n'est plus maintenant sous ce que Paul appelait la malédiction de la loi. Et ce qu'il y a de plus fantastique, c'est qu'avec cette alliance, et ce que le Seigneur dit au verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. » Et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrance pour le péché. On peut dire que cette loi était nécessaire afin de nous préparer, afin de préparer le peuple de Dieu à la venue du Messie. Mais oui, cette loi est nécessaire afin de préparer à la venue du Messie, mais elle a été surtout nécessaire afin de montrer à l'humanité leur besoin d'un sauveur. Comme Paul a dit, avant de voir dans la loi, tu ne convoiterais pas. Je ne savais pas que c'était un péché de convoiter. Donc ça nous met un... C'est sûr, quand on voit la loi de Moïse, on dit, non, moi, je ne suis pas capable. Je ne l'ai pas faite, ça, je ne l'ai pas faite. Dans les 10 commandements, là, si on met de côté les sacrifices d'agneaux, puis tout ça, là, juste les 10 commandements, êtes-vous capable de m'en nommer un que vous avez respecté à la lettre depuis votre enfance? Moi non plus. Donc, ça veut dire que c'est fini. Si Christ n'est pas mort pour moi, je suis fini. Ils ont été là pour montrer mon incapacité à aller vers Dieu. Et comme on l'a vu, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce bien à venir, c'est la paix avec Dieu, c'est ça. C'est la garantie d'éternité en présence de mon Sauveur. Le bien à venir, c'est Christ qui est maintenant la réalité, qui est maintenant ma réalité. Et j'espère qu'il est votre réalité aussi. C'est lui qui est notre bien-venir, mais qui est notre bien-présent aujourd'hui, là. Pour tous ceux qui ont cru en lui, on bénéficie maintenant, dès maintenant. Donc, je vous encourage à profiter maintenant de sa présence. Et pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette nouvelle alliance, la porte est encore ouverte. Dieu est plein de compassion, il vous aime, il veut vous avoir dans cette alliance-là. Il veut vous avoir dans son repos. Il vous encourage à faire le pas dès aujourd'hui. Père éternel, merci pour cette nouvelle alliance. Merci parce que l'ancienne alliance, j'aurais jamais été capable de quelque façon que ce soit de la respecter. Que ce soit par des sacrifices, que ce soit en essayant de lui obéir. Je n'ai jamais été capable. Merci que Christ l'a accompli parfaitement à ma place. Qu'il l'a accompli parfaitement à la place de tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Croire en toi, ce n'est pas simplement croire que tu existes. C'est de te croire, d'avoir confiance dans tes paroles. Et à tous ceux qui croient en toi, tu les accueilles dans ta maison. Merci. Amen.